Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est le sénateur socialiste Rachid Temal, membre de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo. Bonsoir.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
Alors, le week-end dernier, Anne Hidalgo a tenu un meeting à Aubervilliers où elle a rappelé les grandes réformes menées par le PS, de l'abolition de la peine de mort aux 35 heures et à la cinquième semaine de congés payés, en passant par le revenu minimum, le mariage pour tous ou encore l'accord de Paris sur le climat. Pour vous, Rachid Temal, il est nécessaire de souligner que c'est le Parti Socialiste qui est à l'origine de ces réformes et non pas vos concurrents de gauche comme la France Insoumise ou les écologistes?
D'abord, Anne Hidalgo, dans ce meeting important, c'était de présenter effectivement son projet. Donc, mais on y reviendra, je suppose, après. Mais il est important de rappeler, oui, dans un moment de confusion, de qui fait quoi, comment qui, de rappeler que dans notre histoire, les conquêtes sociales, c'est toujours les socialistes qui les ont portées, avec d'autres dans des coalitions, mais c'est toujours les gouvernements socialistes. On peut parler du Front Populaire avec Léon Blum, effectivement, vous avez rappelé François Mitterrand, Lionel Jospin, François Hollande, Pierre Mauroy et beaucoup d'autres. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la question qui vous est posée à chaque électeur, c'est si on veut changer la question sociale, de nouvelles conquêtes sociales, démocratiques, écologiques, eh ben on sait que les socialistes sont capables d'avoir quoi ? Un programme ambitieux, mais un programme réaliste qui peut se réaliser. Et donc il y a ceux qui veulent juste témoigner, et puis il y a ceux comme autour d'Anne Hidalgo notamment, notre candidate socialiste, Anne Hidalgo, eh ben, avec Anne Hidalgo, c'est pas juste de témoigner, mais c'est bien de réaliser les changements dont les Français ont besoin.
Alors Rachid Temal, on va bien sûr parler du projet d'Anne Hidalgo. La France compte 10 millions de pauvres, de très nombreux salariés précaires, sans parler des travailleurs de plateformes du type Uber. Comment Anne Hidalgo envisage-t-elle de revaloriser le travail?
Alors il y a plusieurs éléments, mais je vais me concentrer sur deux points. D'abord, c'est Anne Hidalgo qui, la première, a mis la question du salaire à nouveau dans le débat politique. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Vous avez parlé des travailleurs pauvres, mais on peut parler effectivement des classes moyennes. On voit bien que la question du salaire issu de son travail est une question centrale. Donc, elle a comme première position d'augmenter le SMIC, c'est-à-dire 200 euros net par mois pour chaque salarié. C'est-à-dire que quand vous touchez au SMIC, vous allez faire augmenter, bien sûr, l'ensemble de la grille des salaires. Deuxième chose, vous avez évoqué la question des travailleurs des plateformes. Eh bien, les socialistes au Sénat notamment ont porté des mesures et elle portera effectivement parce que nous considérons que ces travailleurs sont en fait des vrais travailleurs et donc ils ne peuvent pas être comme ça jetés du jour au lendemain par les plateformes et donc ils sont bien des salariés en CDI et qu'il faut rémunérer à leur juste valeur avec tous les acquis sociaux qui sont nécessaires. Vous voyez, et je pourrais aussi d'autres situations, notamment sur une politique industrielle, etc., etc. Mais vous voyez bien que la position d'Anne Hidalgo, c'est vraiment de faire en sorte que la question du travail, la question du salaire, soit vraiment l'axe majeur de ce que sera son quinquennat.
Rachid Temal, Anne Hidalgo utilise l'expression « nouvelle sécurité sociale » au pluriel. Comment garantir aux Français l'accès à une médecine de qualité alors que le pays est confronté aux déserts médicaux et à la diminution du nombre de lits à l'hôpital?
Alors d'abord, vous avez raison de rappeler que le bilan d'Emmanuel Macron, c'est la réduction du nombre de lits et de postes à l'hôpital malgré la crise et même pendant la crise. Puisque depuis que nous avons la crise Covid, le gouvernement continue de baisser dans le Val-d'Oise comme ailleurs, baisser, etc. Donc, Anne Hidalgo fait des services publics et donc la question de la santé, sa priorité avec l'école, mais là, en l'espèce, sur la question de la santé. Et donc, l'idée, c'est notamment d'abord donner des moyens à l'hôpital supplémentaires, et c'est aussi avoir un processus avec les médecins pour que, justement, mettre fin au désert. Donc, il y a un dispositif pour, justement, inciter, valoriser, et faire en sorte que aucun Français ne soit à moins de 20 minutes d'un dispositif de santé digne de ce nom. Donc, encore une fois, c'est une question de choix politique. Madame Pécresse a été celle qui a réduit les services publics quand elle était au gouvernement avec Monsieur Sarkozy. On voit que le gouvernement Macron, que ce soit avec Édouard Philippe ou Monsieur Castex, réduisent et là aussi les services publics. Et nous voulons faire nous au contraire. Le service public, vous savez, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien ou pas grand chose. Ceux qui font en sorte que à une école de qualité, une santé de qualité, une culture de qualité vous fera grandir. D'autres ont les moyens de se payer des médecines privées hautes, d'autres n'ont pas. Et quand j'entends le président de la République notamment évoquer le fait qu'il va dorénavant la question de la gratuité d'université est un problème, je dis au contraire, c'est une chance pour notre pays. Et on doit encore accroître la capacité de l'université à accueillir les meilleurs enfants de la République parce qu'ils méritent une formation de qualité. Donc vous voyez, c'est la question qui est posée au travers de ces questions-là qu'on évoque, sur la question des salaires, des services publics ou de la santé, c'est vraiment la question de choix. Et ce qu'on veut dire aux Français, c'est qu'il ne faut pas se résoudre, se résigner. Ce qu'on nous vend, une doxa qui serait qu'il y a une politique unique. Vous savez, c'est vieux comme le monde, il y aurait le cercle de la raison. Nous disons non, puisque nous sommes en capacité, la gauche l'a toujours montré, d'être ceux justement qui sont assez ambitieux pour changer leur établi, et donc changer ce qu'on nous vend, la droite souvent, je ne parle pas de l'extrême droite, comme les pauvres doivent être en bas et les riches tout en haut. Et
certains électeurs de gauche semblent résignés et se disent que le match est déjà plié, le prochain président sera ou Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse, voire Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Pour vous, tout reste possible encore à gauche?
Vous évoquez le fait des matchs, moi qui suis footballeur, je sais que c'est quand l'arbitre siffle que tout ça se finit. Donc là, on est à peine au moment d'échauffement, parce que il faut que vos auditeurs entendent bien les choses. C'est seulement le 4 mars qu'on aura la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, pas avant. Au moment où on se parle là, le président public n'est pas encore candidat. Et je crois que la situation pour lui changera aussi dans les sondages. Au moment où on se parle là, beaucoup de gens veulent être candidats, mais ils n'ont pas forcément les 500 signatures. Anne Hidalgo est la seule candidate de gauche qui a les 500 signatures, qui a le projet, c'est la seule qui a présenté un projet, il est ambitieux et financé comme je l'évoquais, qui a des élus partout sur le territoire, des militants partout sur le territoire, en capacité de porter une parole. Donc moi, je le dis, le match est ouvert, le match est jouable, et donc il faut que chaque électeur de gauche se dise bien quel est celui ou celle qui peut changer sa vie. Vous avez évoqué l'extrême droite, vous savez très bien que l'extrême droite, c'est la haine, le repli sur soi et les boucs émissaires. Les différentes droites, Madame Pécresse, c'est celle qui quand même annonce qu'elle va commencer par réduire le nombre de fonctionnaires. Ça veut dire moins d'infirmières, ça veut dire moins de policiers, ça veut dire moins d'enseignants. Monsieur Macron a son bilan, qui est une réduction, je l'ai dit tout à l'heure, notamment dans les hôpitaux, mais je pourrais prendre d'autres exemples. Monsieur Macron, c'est celui qui a quand même supprimé l'ISF pour les plus riches, financé par des ardoises supplémentaires pour les plus pauvres. Bon, il a inventé le ruissellement à l'envers. Bon, les riches étant financés par les plus pauvres. Et puis nous avons dans le camp de la gauche, je crois la seule candidate capable de changer les choses, c'est Anne Hidalgo. Avec, je rajoute un élément. Anne Hidalgo est la seule à avoir des alliés au niveau européen, je pense notamment au chancelier allemand, au premier ministre espagnol, portugais ou dans d'autres, notamment nordiques. Et donc nous avons besoin de changer l'Europe pour qu'elle justement elle soit celle, un espace où il n'y a pas de concurrence entre les salariés, un espace qui finance l'emploi, qui finance l'industrie, qui finance la recherche, qui finance la jeunesse. Et pour ça, il faut changer l'Europe. Anne Hidalgo, par ses alliances, peut le faire au niveau européen, et elle a la capacité, la gestion, elle dirige la première ville de France, elle a avec elle des candidats qui l'accompagnent, parlementaires, maires, etc., qui ont une capacité de la gestion. Il y a donc avec Anne Hidalgo, c'est la garantie du changement, mais qui est organisée.
Ce que vous nous dites, Rachid Temal, c'est que les électeurs de gauche ne doivent pas se laisser impressionner par les mauvais sondages actuels qui concernent Anne Hidalgo.
Bien sûr. Mais aucun sondage n'a jamais donné un sondage du mois de janvier n'a donné le résultat du mois d'avril. Bon, et si les sondages étaient vrais, ça serait bon. Et puis deux, ça veut dire que notre démocratie, c'est un sondage et puis circuit a rien à voir. Donc il y a des gens effectivement qui souhaitent nous dire circuit a rien à voir. Vous devez disparaître. Nous leur disons que non, il faut aller jusqu'au bout. Et donc le vote utile à gauche, le vote utile pour changer votre vie concrètement. Sur les salaires, sur l'école, sur l'emploi, sur la sécurité, sur la culture, et sur le logement. Si je prends une mesure, sur le logement, vous avez, l'idée c'est de faire en sorte que pas plus de 30% de votre revenu soit consacré à votre loyer. C'est une avancée considérable pour beaucoup de personnes qui vont nous écouter dans votre émission. Autre exemple, on a aujourd'hui des passoires énergétiques, ça veut dire que les gens n'arrivent pas à se chauffer chez eux dignement. Ça coûte très cher, parce que souvent c'est le chauffage électrique. Donc soit vous chauffez, ça vous coûte un bras, soit vous dites aux enfants, vous gardez votre anorak chez vous, ce n'est pas acceptable au 21e siècle dans notre pays. Et donc avec Anne Hidalgo, l'idée c'est d'avoir un système où on va justement faire que ces passoires finissent. Et donc là, l'investissement il ne sera pas fait, il y aura un tiers payant, il ne sera pas pris en charge par les Français concernés. Vous voyez, ça change la vie. Plus de salaire, une santé de qualité, une école totalement changée, votre loyer ou votre passoire énergétique qui n'est plus là, ça c'est le changement. Ce qu'on veut encore une fois, et ce qu'on veut dire aux Français, c'est que le vote Anne Hidalgo, c'est un vote utile pour leur propre vie. Pour leur propre vie, ça va la changer, ça va surtout l'améliorer.
On va donner un autre exemple, Rachid Temal, comment donner aux jeunes les moyens de leur autonomie? Quel est le projet d'Anne Hidalgo sur cette question de la jeunesse?
Alors, là aussi, il y a beaucoup de mesures, mais je vais en donner deux, si vous me permettez. La première, c'est la suppression de Parcoursup. Et moi, je vois bien, on le voit dans les études, on l'a combattu, moi, je le combats au Sénat. Parcoursup, c'est une boîte noire. En fait, qu'est-ce qui se passe? Avant, le jeune qui passe son bac, il avait le droit de choisir sa formation. Là, finalement, il n'a plus le droit de la choisir. On voit des gens écartés et on se rend compte que bien souvent, les gens issus des quartiers populaires ont moins droit de réussite avec Parcoursup. Donc, il faut mettre fin. Donc, nous mettrons fin avec Anne Hidalgo à Parcoursup pour un système juste et humain pour que chaque enfant de la République puisse choisir sa formation, puisse choisir son avenir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, aussi, on voit bien qu'il y a des différences sociales. Quand vous avez 18 ans, vous êtes une famille qui est boursière ou pas, ou même la classe moyenne, et vos parents n'ont pas les moyens de vous aider, vous accompagner financièrement pour des projets personnels, pour des projets même de formation, s'inscrire dans une école, prendre un premier loyer, pour etc. Bon, et ben qu'est-ce que propose Anne Hidalgo? C'est qu'à 18 ans, chaque enfant soit doté d'une allocation de 5 000 euros pour réaliser un projet. Et donc c'est ça, c'est donner la chance à chaque enfant de réaliser, parce qu'aujourd'hui, un enfant doué se dit, moi, mes parents n'auront pas le moyen de payer une école, n'auront pas les moyens de payer un petit appartement près de l'école. Et donc, ça veut dire des enfants qui s'interdisent de rêver, ou des enfants qui sont obligés de, en parallèle de leurs études, de prendre des transports qui les font parfois 2h30 à l'aller au retour, ce qui quand même nuit grandement à leur éducation, ou qui sont obligés de travailler avec les impacts que cela. Donc, notre idée, c'est de dire, on investit dans la jeunesse de France. Chaque enfant de France doit justement avoir la capacité d'être, ce qu'il souhaite être, à la fois un apprenti, s'il veut être artisan, mais s'il veut être chercheur, faire ses propres recherches. Il faut que chaque enfant de France puisse vivre jusqu'au bout ses rêves. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la France est grande. Quand chaque enfant de France se dit « je peux être ce que je souhaite être ». C'est ça qu'on veut aussi porter avec Anne Hidalgo.
On se souvient que lors de l'élection de François Hollande, le vote des quartiers populaires avait beaucoup compté. Actuellement, de nombreux Français ne sont même pas sûrs d'aller voter au premier tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français qui se disent que de toute façon, leur vie ne changera absolument pas, quel que soit le président élu au mois d'avril?
Alors, ces Français-là, je les connais, je les rencontre, vous savez. Là où j'ai grandi, là où je vis, là quand je vais le dimanche voir mes potes jouer au foot, etc. On parle de cela. Et ce que je leur dis, c'est que d'abord, un, pour que la vie change par la politique, je vous invite à investir les lieux de politique, les partis, être candidat, etc. Et en l'espèce là, dans l'élection présidentielle, à de lire les projets. Et quand je l'évoquais tout à l'heure devant vous, quelques mesures simples, l'augmentation des salaires, la question de l'école, le logement, on l'a dit à l'instant sur la jeunesse, je crois que c'est des mesures prises individuellement et collectivement qui changent la vie des gens. Donc à nous, élus, de faire un meilleur travail parce qu'on doit mieux expliciter, mieux présenter ce que veut dire chaque mesure et l'impact dans la vie des Français. Je crois que les médias doivent également, notamment d'autant plus avec cette période de Covid, faire plus de débats, plus d'échanges sur les questions d'élection. Et j'invite les Français à regarder concrètement ce que sont les uns les autres les propositions. Voilà, donc nous, on a essayé, Anne Hidalgo a souhaité, c'est un long travail, patient, d'échange avec les Français, avec les syndicalistes, des associations sur ce qu'est la France, ce qu'elle vit, ce que vivent les Français, ce dont ont besoin. Et je crois que c'est un projet, vous allez le voir, il y a 70 mesures qui visent à répondre à des défis que vit chacun, comment je vis mieux au niveau du salaire, de l'école, de la santé, de la sécurité. Et je crois que c'est important de faire ce travail-là. Donc il faut que chacun fasse ce travail-là. Les élus, Anne Hidalgo est sur le terrain en permanence. Elle présente ses propositions, les médias, avec bien sûr la neutralité et la bienveillance nécessaires. Et puis les hommes et les femmes politiques qui l'accompagnent. Ce que moi je fais avec vous ce soir, et je le ferai à chaque fois que, bien sûr, votre radio m'invitera.
Rachid Temal, vous avez évoqué tout à l'heure les déclarations d'Emmanuel Macron sur les frais d'inscription à l'université. Il y a un risque de voir ces frais d'inscription augmenter si Emmanuel Macron est réélu?
C'est pas un risque, il l'a dit lui-même. Je veux dire, Emmanuel Macron a dit il faut s'interroger sur la question de la gratuité. Je rappelle qu'en France, ce qui est assez sidérant, c'est qu'on reproche, enfin moi je le reproche, mais le gouvernement le reproche, cette gratuité. Bon, voilà, c'est un peu plus subtil que ça, parce que il faut quand même à côté de ça pouvoir vivre quand on est étudiant, hein. Donc la gratuité, elle est même pas réelle. Donc là, il va même y revenir dessus. Et puis aujourd'hui, l'argent public finance les prépas, etc. Donc moi, je suis effectivement pour la gratuité, faire en sorte que chaque enfant de France puisse aller partout. Donc oui, Emmanuel Macron, c'est la fin de la gratuité de l'université, comme il a déjà fait d'ailleurs la fin des appels, il les a réduits pour un certain nombre d'entre eux de Français. C'est celui qui a aujourd'hui réformé l'allocation chômage. Son bilan de Macron est déjà là. Donc il va continuer effectivement ce côté libéral. Donc voter pour Macron, c'est Parcoursup Empire, et c'est la fin de la gratuité de l'université.
Quel regard portez-vous, Rachid Temal, sur la consultation électronique appelée primaire populaire qui vise à départager les candidats de gauche? Je rappelle que Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo refusent d'être associés à cette consultation, contrairement à Christiane Taubira et trois autres candidats qui sont relativement inconnus.
Alors d'abord, deux choses. La première, c'est que Anne Hidalgo est la seule des candidats de la gauche à avoir fait une proposition aux autres forces de gauche de se rencontrer pour imaginer ensemble un processus de rassemblement, par des débats ou par une primaire. Ils ont refusé, je pense notamment à Yannick Jadot. Bon. Donc on a pris acte et on continue la campagne. L'association que vous évoquez, à 2022 en commun, qui crée une consultation numérique, moi m'interroge sur deux choses. D'abord, chacun a pu voir une vidéo où un des porte-parole expliquait que son objectif c'était quand même d'empêcher que les candidats de gauche puissent être candidats. C'est quand même pour moi... plutôt, c'est pas la rassemblement de la gauche, c'est la destruction de la gauche. Et deuxième chose, c'est moi je suis de gauche parce que je crois à plein de valeurs, notamment la justice sociale, la République, mais aussi la démocratie. Et moi je ne peux comprendre que dans un scrutin ou une consultation, on choisisse des gens contre leur gré, ou même ceux qui voulaient, parce que vous n'avez pas évoqué Fabien Roussel qui n'a pas été sélectionné, on ne sait pas pourquoi. Donc vous êtes candidat contre votre gré, on ne sait pas qui décide pour qui, on ne sait pas. Que en fait, vous avez tous le même programme qu'on vous impose. Moi, dans une démocratie, c'est que chacun choisit son programme et le présente et débatte. Il n'y a pas de trois, il n'y a pas de débat. Quatre, tout le monde ne peut pas voter parce que je rappelle que tout le monde n'a pas de système électronique et qu'il n'y a aucune garantie aujourd'hui d'aucune qui garantit aujourd'hui que ce scrutin ne sera pas craqué par des hackers. Voilà. Donc tout ça n'est pas une. Et puis vous votez pas sur quelqu'un, vous votez sur des pondérations. Tout ça, pour moi, n'est un processus qui n'est pas démocratique. Il n'est pas démocratique, et moi, étant attaché à la démocratie, je ne peux effectivement partager, soutenir ce processus-là. Donc Anne Hidalgo a très clairement dit qu'elle avait tendu la main à ses partenaires de gauche, ils n'ont pas souhaité, maintenant la campagne continue, et donc cette consultation n'est qu'une consultation, c'est une forme de sondage géant. Bon, bah voilà, ce sera un sondage géant pour celles et ceux qui souhaitent les lire. Bon, mais encore une fois, ce qui est clair, c'est qu'Anne Hidalgo... est candidate, elle fait sa campagne et elle n'est pas concernée ni de près ni de loin par cette consultation numérique.
Merci Rachid Temal. Je rappelle que vous êtes sénateur socialiste du Val d'Oise et membre de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo. Bonsoir.
Merci, bonsoir, au revoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.